What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Good.
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे
Bonjour. Aujourd'hui, on parle tous en même temps.
Eh bien, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à ATC, l'émission que tu adores regarder à ta radio. Alors, aujourd'hui, it's wonderful. We are going to talk to the cinema of India on 107.5 Radio D. What's wonderful. Eh bien oui, comme vous l'avez entendu, nous allons parler de Bollywood. Alors Hugo est dans les starting blocks, là, il ne va plus s'arrêter. Attention, 4, 3, 2, 1, go.
Oui, donc le cinéma indien, monsieur Gwen.
Oui, tout à fait.
Le cinéma indien donc désigne la production cinématographique de l'Inde.
Non,
c'était pas évident, il fallait le dire. Oui. Il est parfois surnommé Bollywood. Hein.
Mm-hmm.
Mauvalise en fait. Mauvalise.
Oui, oui.
Créé en combinant donc Bombay et Hollywood.
Voilà.
Hein. Mm-hmm. Surtout en Occident, mais il s'agit d'une utilisation abusive de ce terme qui ne désigne pas l'ensemble du cinéma indien, mais seulement le centre principal de production de. Ah,
Mumbai.
C'est bien.
Donc Bombay.
Où les films sont surtout réalisés en. Hindi.
Oh, Hindi, oui. Oui.
Alors, l'histoire du cinéma donc, en Inde débute le 7 juillet 1896 par la projection de 6 courts-métrages hein, des frères Lumière à l'hôtel Watson.
Élémentaire.
De Bombay. En 1912, donc, là, ça commence. Dada Saleb Phalke, que l'on considère comme le père du cinéma indien, tourne le premier film de fiction qui s'appelle donc Raja Harishchandra.
Harishchandra, oui.
Un épisode du Mai Birata, je suis pas sûr, qui est présenté à la presse et à quelques invités le 21 avril 1913. Donc le film que son réalisateur emporte lui-même de village en village connaît un énorme succès. Mmh. Vers 1920, donc l'industrie cinématographique indienne produit une trentaine de films par an. Dès les années 1930 et l'apparition donc du cinéma parlant, la production annuelle dépasse 200 films. En 1931, Alan Arra, avec ses dialogues en hindi et ses 7 chansons, est le modèle de ce que deviendra la majeure partie de la production indienne. La surenchère, cependant, fera qu'un film comme Indrasa Bla comprendra 71 chansons. Une chose remarquable est la rapide diffusion du film parlant dans l'Inde entière et dans toutes les langues filmées. Allez. Pour un titre terrible. Ayadi Yera Raja 1932. Mmh. Narasim Mekta en Gajarati en 1932. Donc le cinéma indien connaît un certain succès international hein, à la sortie de Pazer Panchali. Du réalisateur bengali. La prochaine fois, on choisit pas ça. Hein. Du réalisateur bengali Satyajit Ray en 1955, donc qui a reçu un Oscar pour sa carrière en 1995, peu avant sa disparition, est considéré comme l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Dans les années 1950, le cinéma indien connaît un âge d'or, avec des réalisateurs qui deviendront des classiques comme Raj Kapoor ou Guru Dutt. Mais comment?
Oui.
Ah, mais les portes du marché international s'ouvrent réellement qu'au début des années 2000 grâce au succès de Lagan.
Oui,
la famille indienne Vedas.
Vedas.
Donc des productions soignées. En mai 2006, le distributeur Eros, hein, comme Ramazotti, fait son entrée sur la bourse de Londres. Donc l'Inde est le premier producteur de films par an au monde. Hein.
Mm-hmm. Tout à fait, oui.
Juste pour citer un chiffre, bon, il est vieux, mais on cite quand même 1200 pendant l'année 2002. Donc les films indiens diffèrent de manière significative de tout autre genre de film dans le monde. La plupart des films indiens sont mélodramatiques d'une durée longue. Mm. Le cinéma indien se présente néanmoins comme un redoutable concurrent pour le cinéma hollywoodien. Donc la musique infilmie joue un rôle significatif dans le cinéma indien, assumant une part de support narratif favorisant la synthèse des scénarios, facilitant la participation du public à ce que le cinéma doit être, donc une fête avant tout, hein, aussi bien pour les yeux que pour les émotions. La diversité donc des langues et des références culturelles en Inde a favorisé le développement d'un cinéma varié. On se réfère parfois à l'industrie cinématographique indienne par différents noms, hein, suivant les régions et les langues. Les productions en hindi, donc tamoul et telugu, représentent 60% du total. Donc notamment Bollywood, hein, qui désigne donc l'industrie cinématographique en hindi, et Urdu, basé à Mumbai. Les films de Bollywood sont diffusés donc dans toute l'Inde et s'exportent dans le monde entier. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs.
Hein. Oui, tout à fait.
Donc après, nous avons Kollywood, hein, qui désigne les films en tamoul, hein, provenant donc des studios
Chennai.
Oui, de Kodam Baksam.
Ouais. Oui, c'est dans l'état de Chennai. Et c'est l'ancienne ville de Madras.
D'accord. On a aussi donc Tollywood, hein, qui désigne les films en
Telugu.
Merci. Donc qui produit à
Hyderabad.
Voilà, c'était facile à dire. En Andhra Pradesh. Donc après, on a
Mollywood.
Merci. Qui désigne ceux en.
En Malayama.
D'accord, donc qui sont produits dans le
Kerala, donc la pointe sud-ouest de l'Inde.
D'accord, et donc nous avons Sandalwood, mm-hmm. C'est là où ils font les sandales d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Qui désigne les films en Kannada, produits en Karnataka.
Voilà, c'est ça.
Karnataka.
Qui en fait. Oui, c'est super compliqué. Oui, c'est juste en dessous du Kerala.
D'accord, c'est facile.
Oui, c'est la grande ville, c'est Bangalore.
Voilà.
Pour ceux qui connaissent un peu plus.
Tout le monde connaît. Donc, Tollywood, hein, qui désigne aussi depuis 1932 le cinéma
en Bengali.
Voilà, ouais. Réalisé par les studios du Tollygange, un quartier de Kolkata, en Bengali occidental. Donc, je vais vous faire vite fait sur la musique filmie, hein, parce que c'est quand même assez important. Hein.
Tout à fait, oui.
Donc, filmie est le nom donné à la musique composée pour les films indiens et notamment pour les intermèdes musicaux dansés obligatoires. Généralement, les morceaux sont disponibles sous forme de cassettes et de CD, hein, si vous voulez vous en acheter.
Oui, il y a beaucoup dans les petits magasins qu'on trouve dans les quartiers.
Donc, c'est piraté à des millions d'exemplaires, longtemps avant la sortie du film, ce qui fait que les spectateurs indiens connaissent les chansons lors de la sortie du film. Certains films sont bénéficiaires que grâce aux revenus engendrés par leur bande originale. Mmh. Si ces musiques ne plaisent pas, le film ne sort pas. C'est par essence la musique populaire de l'Inde. Donc la qualité des compositions est très variable, allant du médiocre à l'excellent. Ce dernier cas illustré par exemple par A.R. Rahman ou Jatin Lalit. Certains chanteurs ou chanteuses atteignent une notoriété quasiment héroïque, comme la célèbre Lata Mangeshkar.
Oui, très connu.
Oui.
On parle que d'elle.
Oui, j'ai des posters. Donc, les films étant parfois tournés dans plusieurs versions, en hindi ou en tamoul par exemple, les morceaux musicaux intégrés dans les films connaissent ainsi plusieurs adaptations, donnant lieu à des réorchestrations différentes, domaine où excelle AR, donc toujours le même, Rahman, plus satisfaisante aux oreilles de chaque partie de l'Inde. Le plus souvent, ces orchestrations mélangent instruments indiens et occidentaux, donc le chennai et de rigueur pour les mariages, le sarangi pour les scènes tristes, les violons pour les scènes dramatiques passionnelles, le piano pour les scènes exotiques, etc. Ce sont souvent les meilleurs artistes indiens qui prêtent leur concours. Même dans le cas d'un cinéma lorgnant vers le public occidental, le film par exemple Le mariage des moussons de Meera Nair, par exemple, plus proche par ses thèmes et sa réalisation du cinéma d'art et essai que de Bollywood, les numéros musicaux sont présents. On retrouve la même présence dans les films réalisés par les jeunes réalisateurs anglais d'origine indienne ou pakistanaise, comme Jula, comme Beckham de Gurinder Chadla. avec dans ce cas des morceaux musicaux de styles plus diversifiés comme Blondie et Texas. Il côtoie Malkit Singh et Bali Sagu. D'une certaine façon, le cinéma indien réalise par ce mélange de musique, de danse et de dramaturgie l'idéal défini par Muni Bharata dans son traité Natya Shastra, où il décrit les bases des arts indiens de la scène. C'est à vous, Cognac.
Voilà. Alors,
Cognac Bombay.
Voilà, Cognac Bombay. Alors déjà, qu'est-ce que l'Inde ? Alors l'Inde, déjà, c'est une république dont la capitale est New Delhi. La plus grande ville, c'est Mumbai. C'est le deuxième pays le plus peuplé, avec 1,2 milliard d'habitants, avec 17% d'augmentation par an. C'est le septième pays le plus grand. Le quatrième pays pour ce qui est du PIB. La France est neuvième. Et c'est la plus grande armée au monde avec 1,3 million de soldats et 500 000 réservistes. L'Inde tire son nom de l'Indus, hein, qui est le fleuve en sanskrit. Alors, en 1956, le State Reorganization Act qui réorganise les États selon les bases linguistiques. Donc il y a 28 États. Il y a 23 langues officielles. Il y a un grand nombre de dialectes, ce qui fait qu'il y a environ 4000 langues différentes, c'est vous dire. Hein. L'hindi est la langue officielle, parlée par 422 millions d'habitants, soit 41% de la population. Que oui, évidemment, il y a tous les studios, il y a aussi, parce que après, effectivement, comme disait Hugo, il y a tous les films qu'on traduit, donc les films en Marathi qui sont produits à Mumbai et à Pune, en Gujarati à Gujara, en Punjab, c'est-à-dire c'est l'État qui a été divisé en deux entre le Pakistan et l'Inde. En Orija, en Orissa, en Assami, en Assam, et évidemment l'anglais, qui est aussi la seconde langue officielle, je dirais plutôt la langue administrative, évidemment dans des coproductions internationales. En 2003, il y avait 877 films, donc 256 en hindi, 155 en telugu, 151 en tamoul, 109 en Kannada, oui c'est une langue, en 64 en malayalam, et une cinquantaine en bengali quand même. Donc je veux dire, par rapport aux States, c'est l'écrasement. L'Inde disposait en 2004, puisque les sources là changent, de 13 000 salles de cinéma et de 73 salles multiplex. En France, on en a 5 400 environ. Et on a 176 multiplex qui attirent 60% de la population.
Je crois qu'il reste encore des salles d'époque. Hein.
Oui.
En Inde.
Oui, mais après, il y a aussi tout ce qui est itinérant. Ce qui le fait le moins, puisque effectivement, depuis l'avènement... Bon, après, il y a eu le VHS, mais maintenant, il y a le DVD et aussi la télévision, qui évidemment a quand même bien réduit le cinéma itinérant. Non, qu'est-ce que Bollywood ? Alors, le Bollywood, c'est un cinéma de vivacité qui est typique du cinéma du Sud, comme Tollywood ou Collywood. Et c'est alors, effectivement, comme disait Hugo, Bollywood, c'est le visage officiel du cinéma indien.
Oui, non, mais juste pour dire donc pourquoi M. Gwen a choisi quand même ce sujet-là. Ce n'est quand même pas indifférent, puisque l'année 2013 quand même marque l'anniversaire des 100 ans du cinéma indien.
Ben voilà. Et oui,
il fallait aussi le souligner.
Merci. Comme tu disais au début de l'émission, c'est vrai que c'est le terme générique. Maintenant, Bollywood, on parle Bollywood, ce qui est effectivement le cinéma de Mumbai. En même temps, c'est la deuxième plus grande ville. Hein. C'est même la première grande ville de l'Inde. Et c'est effectivement la vitrine qu'offre l'Inde au cinéma international. Donc, ils adoptent en effet dans le dialogue un langage simplifié ainsi que de forts codes visuels et narratifs, facilement identifiables plus facilement dans les régions indiphones. Fait unique, c'est le cinéma qui a contribué au développement de la langue hindi, à sa propagation et à ce curieux mirage d'une langue nationale dans un pays qui, selon l'État, où elles sont quand même assez nombreuses, toutes ces langues. Le film est centré sur la famille, qui réactive continuellement des trames narratives et des archétypes, plus ou moins fixes, héritage d'une culture classique. Le théâtre populaire, Yartha, le théâtre Parsi, c'est Parsi, pas parler, Parsi par là, hein, c'est Parsi. Malgré les éléments traditionnels, Bollywood utilise pleinement des éléments contemporains, voire étrangers, surtout de Hollywood d'ailleurs. Spécialiste du remake, il pioche dans la littérature ou dans le cinéma national ou international, surtout américain, comme je disais. Le film populaire indie brasse des genres, puisque le film d'action ou de guerre aura aussi une romance avec des aspects comiques ou fantastiques. C'est ce qu'on appellera le cinéma masala, le film masala. Masala, c'est un mélange d'épices. D'ailleurs, au début, on disait le Hollywood masala avant que ça tourne au film Bollywood. Les séquences musicales sont caractéristiques de Bollywood. Passages dansés et chantés en playback, attention, qui entrecoupe le récit, n'a des fois pas aucun rapport avec le reste, encore, que certains réalisateurs en font le point d'orgue du film. La musique est distribuée des mois à l'avance, comme disait Hugo, et effectivement, moi, ce qui c'est pas sans me rappeler, évidemment, les États-Unis, puisque quand même, maintenant, on essaie de faire aussi tout le côté musical, puisque les stars attaquent, notamment, on en avait vu Tina Turner sur James Bond, et ainsi Adele aussi. L'énormité de la production, environ 300 films par an, n'effacement pas l'hégémonie de certaines stars devant ou derrière la caméra, et pour certains depuis plusieurs générations, comme Bachchan, Kapoor, Chopra, Mukherjee. Ces familles sont des dynasties, voire une puissante oligarchie régissant l'univers du cinéma. Mais pas que dans le cinéma. La mode, la publicité, Ikriti, Rossan et la fameuse évidemment Aishwarya Rai. Ou encore la télé, comme Salman Khan, Shah Rukh Khan et Karam Johar. Cette cristallisation autour de quelques figures renforce l'autarcie d'un cinéma qui se donne à voir comme autonome. Bollywood crée un univers unique qui n'est pas vraiment un miroir de l'Inde, mais en même temps pas un univers simple, espace fantasmagorique. Les films mettent en scène un monde hybride qui mêle culture, histoire et modernité. Omniprésence des séquences religieuses et rituelles et ritualisées, Mindy, les fiançailles, le mariage, la crémation, etc. Le goût pour une tradition préservée n'empêche pas la course-poursuite en Bollywood. Ou le port de la mini-jupe, hein, les scènes dansées dans les boîtes de nuit. À cela, il faut ajouter une certaine esthétisme cinématographique, une tendance au chant, contre-chant, en gros plan, à la linéarité narrative et la suprématie de la figure ou du personnage. Celui-ci est le cœur du film, imbriqué dans plusieurs cercles, famille, village, société, caste, religion, qui vont permettre le nœud dramatique. Mumbai aime les coups de théâtre, les multiples rebondissements, bref, le plaisir du récit. Bollywood marche parce qu'il parle à un public étranger aussi, puisqu'il comporte quand même les mêmes valeurs, notamment le public africain et Moyen-Orient, et aussi grâce à sa diaspora, puisqu'il y a quand même une forte implantation indienne dans divers pays, notamment anglophones. Cette diaspora importante, The No Resident Indian, donc le RNI, se fait sentir aussi par l'apparition de plus en plus importante d'un personnage dans les films contemporains, donc le fameux, hein. J'ai entendu parler qu'il y a la création d'un cinéma d'animation de plus en plus avec la technique moderne et évidemment avec les voix des grandes stars, évidemment, du cinéma bollywoodien et qui ressemble quand même bien au film aussi. Bollywood est un cinéma plus complexe qu'il n'y paraît, pas uniquement un assemblage de films kitsch, hein, parce que là, ça aussi, c'est quand même, hélas, un peu le côté dommageable du cinéma de Bollywood et romantique, à sa longueur narrative, puisque c'est des films qui durent à peu près 3 heures. Hein. On ne fait pas minimum, on ne fait pas moins. C'est obligatoirement 3 heures.
Et les entractes, hein ?
Ça, je sais pas du tout, mais. Ouais, je pense. Bah, ça dépend. Je pense que dans les cinémas itinérants, ça peut être possible, puisque les bobines. Dans les cinémas itinérants, ça doit être possible à cause des bobines. Maintenant, avec l'évolution numérique, qui répond à une vraie obligation de style avec des évolutions de scénario et des singularités esthétiques. De plus, ces thèmes, mariage arrangé, tensions religieuses entre islam et hindouisme, qui est très important, l'immigré et l'attachement au pays quitté, rencontrent une forte adhésion dans un public populaire, donc au Moyen-Orient, en Afrique noire, qui se reconnaît dans ces histoires. Tandis que la censure stricte en matière de représentation de sexualité, attention, hein, tu vois, notre séquence érotique, ça n'aurait pas marché en Inde, hein, rend ces films diffusables dans les pays musulmans. Si Bollywood a commencé très tôt en 1930 sur le modèle des studios américains, c'est surtout au cours des années 40 et essentiellement 50 avec le développement du star system, des chanteurs et des chanteuses en playback et la naissance des auteurs-producteurs comme Raj Kapoor et Guru Dutt, comme tu disais, sans oublier évidemment Bimal Roy, enfin bref, ouais, et que le cinéma indie a connu son âge d'or. Le critique bengali Shidendra Das vous, Pat, a trouvé une belle expression, The All Indian Film, qui résume l'aspiration du cinéma indie de Bombay, qui se veut être le miroir de l'Inde dans lequel toute une nation peut se reconnaître, tout en rêvant autre qu'elle n'est. C'est vrai que c'est des films longs, c'est vrai qu'il n'y a pas de sexualitisme, j'ai même des films où les personnages ne se touchent pas, sauf au moment des chants, des danses, je veux dire. Effectivement, très peu de violence, enfin, pas à l'américaine, quoi. Je veux dire, forcément, il y a des bastons et tout, mais ça reste quand même bon enfant, hein, on va dire. Après, je pense qu'il y a quand même quelques-uns qui ont commencé un petit peu sur ce qui est du gore, évidemment.
Si, je pense qu'ils sont même américanisés un peu. Plus si chaque cinéma indien a sa particularité. Hein.
Oui, non, mais je dirais parce qu'en fait, dans les années 50, 60, 70, c'était surtout un cinéma qui était sponsorisé par la mafia. Hein, il faut quand même bien le savoir, puisque l'État s'était complètement il s'était même pas engagé dedans. Et c'est à partir de, justement de 2000 que l'État a commencé à permettre aux films d'être financés par les bandes.
Mais là, tu dis 40-50, mais on était quand même sous protectorat britannique, là, non?
Bah, je veux dire qu'il y a, oui,
parce
que
la son indépendance en
47, voilà, c'est ça. Oui, et puis il y a aussi tous les problèmes aussi avec le Pakistan et le Bangladesh de l'autre côté. Oui, effectivement, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un ralentissement avec la Seconde Guerre mondiale, l'indépendance et les problèmes liés au Pakistan. Après, je dis pas, parce que c'est vrai que ça reste quand même un cinéma qui écrase quand même beaucoup, puisqu'ils font quand même beaucoup, beaucoup de films. Et il y a aussi tout un star system, mais ça, je parlerai plus tard, avec les films qu'il faut voir absolument, disons, qui font une sacrée référence à Bollywood.
D'accord, si tu te permets, je vais juste m'attarder un peu sur le cinéma du Kerala.
Bah.
Donc le cinéma du Kerala, ou cinéma Malayalam, ou Mollywood.
Mollywood,
ouais, donc se réfère aux films faits dans l'état indien du Kerala, en langue Mayala. Oula, j'ai mangé un mot là.
Oui,
Malayalam, on va y arriver. Donc les films, donc Malayalam, oh là là. Mettent typiquement en scène donc des questions sociales ou familiales. Donc ils sont par conséquent plus réalistes que les films issus de Bollywood. Donc, parce qu'ils sont un peu...
Ah non, mais il y a un gros oui. Un gros fossé, justement.
Voilà. Donc le premier film en 3D produit en Inde, My Dear Kutichatam, donc a été tourné en Malayalam. Le premier film tourné en cinémascope produit en Malayalam a été Chacholi Ambu. Les films Malayalam, je vais y arriver. Oui, vise un public vivant donc en Inde du Sud, constitué de spectateurs originaires de l'état du Kerala. La population totale des locuteurs, hein, Malayalam, est de l'ordre de 40 millions de personnes, presque l'état français, donc c'est pas mal.
Ah oui,
dont on estime que 60% vont au cinéma. Les films Malayalam sont souvent en Inde ou au moins en Inde du Sud des précurseurs, oui, dans les domaines techniques ou thématiques. Donc on peut retrouver dans ses principaux films Martanda Varma, c'était en 1933, le premier drame historique indien, donc fondé sur la vie de Martanda Varma, le Maharaja de la principauté de Travancore au milieu du 18e siècle. Donc Martanda Varma était une adaptation du roman éponyme de C.V. Raman Pillai, en faisant l'une des premières adaptations littéraires en dehors des Puranas. Le deuxième film, donc, c'est Newspaper Boy, en 1955, largement considéré comme le premier film néo-réaliste en Inde. Le film tire son inspiration du néo-réalisme italien et sorti quelques mois avant le film Pater Panchali de Satyajit Ray, un autre film néo-réaliste. Donc après, on a, donc, comme j'ai cité tout à l'heure, Chacholi Ambu, 1978, premier film en cinémascope en Inde du Sud. Padayottam, en 1982, premier film indien produit localement en 70 mm. My Dear Kuti, donc Chattan, 1984, premier film indien en 3D, c'était déjà en 1984. Ama Ariyan, en 1986, premier et peut-être seul film réalisé en Inde avec des fonds collectés auprès du public. Hein. Le film a été produit par Odessa Collective, fondé par le réalisateur de films John Abraham et quelques amis. Les fonds ont été levés en recevant des donations et en projetant le film de Charlie Chaplin, Le Kid. Et aussi Ofabi, en 1993, premier film indien hybride live action animation.
Bien.
Donc là, c'était pour parler un peu du film de
Kerala.
Et surtout de Malayalam.
Voilà, c'est ça. Alors effectivement, il y a quelques films à voir. Donc, je dirais que le premier, celui qui a un peu fédérateur, mais qui a quand même beaucoup fait parler de lui, c'est Mother India. Avec un titre, pour une fois, assez facile.
Il y a des films cultes, je pense, qui sont en noir et blanc.
Ça, bien sûr, mais bon, après, moi, j'ai pris quelques-uns. Après, je peux pas tout prendre.
Parce que le premier long métrage, c'était Raya Harishankar.
Oui, en 1913, oui. Mother India, donc en 1957, qui dure 172 minutes. Yes!
C'est pas long.
De Mahbub Khan, et qui a reçu le Oscar du meilleur film en langue étrangère, donc la même année. Donc, ça raconte l'histoire passionnante de Radha, qui est jouée par l'actrice Nargis, veuve et mère de deux enfants, qui se bat pour assurer la survie de sa famille, alors qu'un usurier, le méchant, affame le village. Alors, c'est vraiment le gros succès à l'époque de Bollywood. C'est la peinture sociale de l'Inde rurale, et ça, c'est très important, parce qu'il y a vraiment un gros conflit entre, justement, l'Inde rurale. L'Inde rurale et justement celle des grandes villes comme Mumbai, et c'est ce qui fait un peu les dommages collatéraux de Bollywood. Donc évidemment l'histoire commence avec le mariage de Radha et jusqu'à la mort de son fils Birju, et il est considéré comme le autant en emporte le vent indien. Voilà. Ensuite, et c'est là qu'évidemment moi aussi je vais m'éclater la biche, le Diwal Dulhania le Jayeng en 1995.
Tu peux répéter?
Diwale Dulnaa Le Jayeng d'Adita Chopra. Alors celui-là est très connu, Adita Chopra, c'est une grande génération de réalisateurs. En termes, ça voudrait dire l'amant amène la mariée. Donc c'est l'histoire d'un père de famille indien qui vit à Londres avec sa famille. 20 ans auparavant, il a promis à son meilleur ami qu'il marierait leurs enfants. Oui, ça tourne toujours autour du mariage. Mais ce n'est pas du goût de la jeune Simran qui obtient la permission de voyager pendant un mois à travers l'Europe avant de partir pour l'Inde, dans le Punjab. Voilà. Au cours de son périple, elle fait la connaissance de Raj, qui va mettre du bazar dans les plats de papa. Évidemment, ça parle du mariage forcé avec humour. Ça a tenu quand même 62 semaines en tête du box-office quand même. L'acteur, évidemment, reconnu, c'est un dieu vivant sur Terre, Shahrukh Khan. Mais ça, j'en parlerai plus tard de lui. Et l'actrice, elle s'appelait Kajol.
Kajoli.
C'est ça, j'allais le dire. C'était un petit nounours.
Elle était poilue ?
Non. Ah. Non. Ensuite, il y a Akpan Kun.
Je t'ai même pas entraîné. Moi, je me suis entraîné.
Bon, pour les intimes, c'est H-A-H-K.
C'est très simple.
Qui dure 206 minutes.
Oh là.
Voilà, il y a 14 chansons dedans. Et ça veut dire... Qui suis-je pour vous ? Bon, on l'aura reconnu, évidemment. Oui. Voilà. De Suraj Barjatia.
En quelle année, celui-là ?
En 94, donc il est considéré comme étant au quatrième rang de Bollywood, un premier film indien à infiltrer les circuits de diffusion anglo-saxons. Donc dans le mariage arrangé de Rajesh et Pooja, leurs frères et sœurs respectifs, Prem et Nisha, trouvent leur compte puisqu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et évidemment, tout le monde chante, tout le monde est content, et là-dessus, pas de chance, il y a un super drame qui arrive, que je ne vous raconterai pas parce que quand même, on ne va pas niquer le film. Et qui arrive évidemment pour justifier les 3h26 de film. Ensuite, il y a Gadar, El Prem Kata en 2001, Daniil Sharma. Donc, ça parle évidemment toujours de ce problème entre l'Inde et le Pakistan. Donc, en 1947, l'Inde et le Pakistan se déchirent et il y a la partition de l'Inde qui se fait dans un bain de sang. La famille de Shakina, musulmane, tente de rejoindre le Pakistan. À la gare, la jeune fille est séparée de ses parents par la foule qui l'entraîne. Ensuite, Tara, un Sikh, parce que là aussi il faut parler des Sikhs.
Sikh. Sikh
and destroy. C'est pas un seigneur Sikh. La prend alors sous sa protection. Évidemment, Sakina tombe amoureuse petit à petit de son sauveur, l'épouse et fonde une famille avec lui, jusqu'à ce que son père la retrouve.
C'est des films platoniques.
Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Ah, mais hein? tout à fait. Alors, il y a aussi celui qui est très connu aussi, c'est Soleil. Alors, c'est pas le soleil, hein, c'est Sholei.
Sholei.
S-H-O. L-A-Y, 1975 de Ramesh Sippy, qui fait 3h19, qui signifie braise, hein, quand même. Donc, dans une locomotive, l'inspecteur, alors, il est connu pour avoir des noms super compliqués. Donc, déjà, c'est compliqué, mais alors là, c'est encore plus compliqué. Donc, l'inspecteur Thakur Baldev Singh poursuit deux bandits. Viru, qui est joué par Dharmendra, star des années 70. Qui
c'est a un fait... film policier, ça.
Oui, oui, oui. Okay. Qui a fait plus de 230 films. Voilà. Et Jay, qui est fait par la star indienne Amitabh Bachchan. Donc, c'est l'emblème de Bollywood. Et qui a évidemment lui aussi fait 200 films. Donc, ces derniers le sauvent. Donc, ils sont emmenés en prison parce que. Voilà, ils sont évidemment arrêtés. Et l'inspecteur part à la retraite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il avait arrêté un célèbre bandit qui terrorisait la région, qui s'appelait par son doux nom Gabbar Singh. Et évidemment, celui-ci s'évade et se venge. Il massacre toute la famille de l'inspecteur. L'inspecteur va aller retrouver nos deux amis, les fait sortir de prison. Et évidemment, ils vont aller rechercher ce Gabbar. Donc c'est l'un des premiers films à faire connaître le cinéma en Occident. Il puise dans le western spaghetti. Donc il y a évidemment un superbe chant d'amitié dans un sitcar parce qu'évidemment c'est trop génial. On a beau massacrer tout le monde, on fait quand même des chansons. Il faut savoir quand même que Ramesh Sippy était âgé de 27 ans alors et il signe un véritable succès. Le film restera à l'affiche pendant 10 ans. Pourtant il avait mal commencé mais le bouche à bouche a marché à merveille.
Donc, le bouche à bouche.
Non, le bouche à oreille.
Ah bon.
Le bouche à oreille a marché merveilleusement, quoi.
Ah, elle est belle, faut la laisser.
C'est ce qui ferait quand même plaisir au cinéma hollywoodien qui, évidemment, attend les premières entrées. Et si le film ne fait pas les entrées, il est viré. Et il y a une chanson, alors c'est ça aussi, qui s'appelle Mebouba, Mebouba, qui est une reprise d'un titre de Demis Roussos. Oh, beloved, beloved.
Gwen va vous la chanter tout de suite.
Non, je ne fais pas du Demis Roussos. J'ai les poils de Demis Roussos, mais je n'ai pas la voix de Demis Roussos. Vous m'excuserez. Alors voilà, moi, c'est le film que je voulais parler, évidemment. C'est Veer Zara de Yash Chopra en 2004 et qui est écrit par son fils, hein, le fameux Aditya Chopra. Moi, je trouve qu'il représente quand même bien le cinéma de Bollywood. Donc évidemment, c'est l'histoire d'une jeune avocate pakistanaise qui tente de comprendre ce qui est vraiment arrivé à Veer, un Indien emprisonné au Pakistan. 22 ans auparavant, sous de faux prétextes. L'avocate, qui se nomme Samia Siddiqui, donc, qui est la fille d'un ancien militant des droits de l'homme. Donc en fait, c'est un mec qui est tombé amoureux d'une nana, qui est pakistanaise inde, et finalement ça le fait pas. Lui, il est enfermé parce qu'il arrive au Pakistan, on le prend pour un espion, on l'arrête. Et là, le type qui devait logiquement épouser la fameuse jeune fille lui arrive et lui dit « Mon gars, si tu parles, tu vas la déshonorer. Donc tu fermes ta mouille. » Donc pendant 22 ans, le type, il ferme sa mouille. Ça, il n'y a qu'en Inde qu'on voit ça. Hein. Parce que le réalisateur Yash Chopra est né à Lahore. Donc c'est le fameux Lollywood. C'est la version pakistanaise du cinéma. Et il a été exilé à Juldar au Punjab. Donc le côté...
obscur de la France.
Non, le côté indien du Punjab. Ah. Donc voilà. Mais il est quand même resté fidèle à ses racines et à la cuisine Punjab. Donc, entre les années 60 et 70, Yash a introduit de nombreuses innovations considérées aujourd'hui comme l'essentiel à Bollywood. L'intrigue sentimentale, les costumes et les décors somptueux, les chansons faciles à retenir et les cadres exotiques. Il a tourné en Suisse, c'est le premier à avoir osé tourner en Suisse un film, et depuis, il a tourné autour d'un lac, et depuis, ce lac s'appelle le lac Chopra. En 1965, les films de Bollywood sont interdits au Pakistan parce que lui, il a vécu vraiment ce problème de la séparation du Pakistan et de l'Inde et parce qu'il y a eu quand même 15 millions de personnes qui ont été obligées de s'exiler. Quoi.
D'accord.
Et lui, il a assisté à des convois de trains musulmans où des gens ont été exécutés et les trains brûlés. Ce qui, évidemment, est arrivé de chaque côté de la frontière.
Ça l'a marqué,
merci. Et évidemment, il est resté pacifiste et c'est ce qui fait que depuis, il fait des films qu'on appelle entre guillemets saints, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sexe, pas de violence, quoi. Il dit au nom de la religion, un immense carnage a eu lieu sur cette terre et cela ne s'est pas arrêté en 1947. Chaque jour, le sang coule au Gujarat, au Cachemire et au Pakistan entre chiites et sunnites. Dans ce film, il y a le fameux acteur Shah Rukh Khan, qui est aussi originaire du Pakistan. On lui a demandé s'il était victime, évidemment, des préjugés anti-musulmans. Et il dit non. Le monde du cinéma n'a jamais fait la différence entre hindou et musulman. C'est un milieu absolument laïque où tout le monde est accueilli à bras ouverts et où les musulmans ont énormément de succès. Effectivement, puisque en Inde, la population musulmane représente 12% de la population, mais trois des plus grandes stars, vedettes masculines, hein, qui ont le nom Khan à l'intérieur de leur nom, sont musulmans. Donc il y a évidemment Shah Rukh Khan, Amar Khan et Salman Khan. Ce qui est quand même assez curieux, puisque dans une nation hindoue, il est considéré comme Dieu. Moi, j'ai vu des articles de journaux où effectivement des dames se sont disputées avec leur mari pour venir le voir, pour le toucher. Parce qu'il est vraiment considéré comme un dieu. Il est assez amusant, il gagne des millions. Bon, après, c'est des roupies, mais enfin, quand même, chez lui, il est super riche. Et il a un cinéma chez lui. Il ne regarde pas de films indie parce qu'il considère que c'est trop long. Et il fait que des films le ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans ce contexte où, finalement, c'est une star, un peu comme les stars étaient dans les années 30-40 à Hollywood. Quoi. C'est-à-dire c'est des personnages intouchables, pas encore vraiment aux Britney Spears. Quoi, tu vois. Non, là, c'est des stars, c'est des icônes, on ne les touche pas. J'avais aussi parlé de cette fameuse actrice Preeti Zinta, parce qu'elle a dénoncé le fait qu'elle avait été rançonnée par la mafia. D'accord. Mais évidemment, comme disait Hugo, il y a beaucoup de chansons, et donc le plus connu, parce que les plus grandes chansons d'Hollywood ont été écrites par des poètes ourdou. C'est la fameuse langue du Pakistan.
Oui.
Donc Javed Siddiqui a écrit des dialogues pour plus de 80 films. Lui, il dit le scénario hindi idéal. C'est Roméo et Juliette, c'est aussi Lala et Manju, qui est une grande histoire d'amour persane introduite en Inde par les marchands arabes, et des épopées hindoues de Ramayana, c'est le fameux récit de Rama, le septième avatar de Vishnu, hein, comme tout le monde connaît, qui possède 7 livres dont de 24 000 couplets. Si vous voulez lire, allez-y les gars. Et le fameux Mahabharata, qui est quand même le livre hindou qui a été écrit à la même époque que la Bible, mais qui fait 15 fois plus long. En d'autres termes, un cocktail hindou, musulmans et chrétiens, à l'image de l'Inde même. Et évidemment, tous ces films, parce que là aussi il y a des histoires de mariage, c'est-à-dire que tellement ça a marché, le cinéma de Bollywood, c'est maintenant que les jeunes mariés veulent avoir la chorégraphie qui va avec, ils veulent la musique, la nana elle veut danser, alors que dans la majorité de l'Inde, il est interdit à une femme de danser en public.
Non, mais c'est la société qui change.
Oui, mais c'est la société qui change. Et évidemment, et c'est là où arrive le gros fossé du cinéma de Bollywood. Parce que les ruraux n'aiment pas, enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais trouvent ça dérangeant que les gens aillent, qu'ils soient tous riches, qu'ils aillent en Suisse, à Londres, à Los Angeles. Et donc, voilà, pour eux, c'est un gros, gros, gros problème. Donc, évidemment, il faut que les scénaristes et réalisateurs de Bollywood sachent arranger le chef et la choupe.
De toute façon, le cinéma qui est diffusé en anglais en Inde, c'est du cinéma qui a été fait par des coproductions internationales, parce que oui, c'est toujours dans leur langue.
Oui, et puis tu me demandais des stars, alors il y a évidemment Aishwarya Rai, qu'on connaît beaucoup,
oui,
puisqu'elle a fait quand même beaucoup de publicité pour L'Oréal. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Et qui est née donc le 1er novembre 1973 à Mangalore, dans le Kartala. Et donc, qui est de langue Toulou. On la connaît, Artoulou. Et qui était Miss Monde en 94. Peut-être pour ça. Elle a joué dans ce fameux film Devdas de San Yelika Bahansali en 2002, et qui est un roman éponyme de Sara Chaudhra Chatgiri en 1917. Donc c'est un classique. Donc évidemment, ça raconte l'histoire de Dev Das, qui est surnommé Dev. Ça va nous aider d'ailleurs.
Dev.
Le chanteur. Non, il n'ira pas chez Vanilla. Qui revient en Inde après avoir fait ses études en Angleterre. Il retrouve son ami d'enfance, Parvati, surnommé Paro, et ils semblent très proches. Devas, malgré son apparente désinvolture, est passionnément amoureux de Parvati, et évidemment, elle a attendu passionnément qu'il revienne. Mais hélas, Parvati est d'une famille modeste, alors Devdas est d'une famille, évidemment, aisée. Alors là, évidemment, rocambolesque. Voilà, et ce qui est aussi la différence entre le film de Bollywood et le film occidental, c'est-à-dire qu'on va souvent arriver en Occident, si le mariage est forcé, et ben ils vont s'enfuir et puis basta, et puis ils vont mettre les parents devant le fait accompli. Or, en Inde, non, il faut convertir les parents pour qu'ils acceptent que leur histoire se fasse. Donc tu vois, ça se fait pas, on va pas discréditer les parents.
Ouais.
Elle avait fait un film qui avait aussi apparemment peu marché, c'est The Mistress of Spice. Et là, évidemment, on avait la confrontation entre un Américain, évidemment beau gosse, qui rencontre évidemment une Indienne qui est maîtresse des épices, mais elle n'a pas le droit de toucher son amoureux, et évidemment de contact physique. Et donc voilà, donc c'est la confrontation de l'Inde et de l'Amérique. Ce qui est considéré comme... Je pense qu'au niveau des Occidentaux, ce qui est aussi le plus connu, c'est Coup de foudre à Bollywood. En 2004, oui, Coup de foudre à Bollywood de Gurinder Chadha. Donc, c'est la version, puisque là, j'ai aussi pris quelques-uns pour vraiment que ce soit vraiment très typique. C'est là, évidemment, un remake. Un remake très connu d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen.
Ah oui, d'accord.
Donc, qui avait été tourné en 2005 par Joe Wright, et on avait vu Keira Knightley. Donc, le rôle de Keira Knightley, évidemment, est fait par Ashiwara Rai. Donc, évidemment, on a la confrontation entre les Occidentaux en Inde, notamment la plage de Goa, qui est la plage occidentale par essence, et les Indiens en Occident, donc à Los Angeles ou à Londres. Donc, c'est l'histoire de Darcy qui arrive, qui est joué par Martin Anderson, et qui rencontre le personnage de Rai, qui est Lalita. Évidemment, eux se rencontrent, américains, indiennes. Ça, c'est la fameuse histoire où la mère de famille veut faire marier ses quatre enfants. Là, il y a un indien qui se présente pour épouser la grande sœur. Lalita, c'est la seconde sœur. Elle va évidemment avoir cette histoire avec Darcy, et évidemment avec l'adversaire de Darcy, puisque c'est, comment ça s'appelle, le méchant de l'histoire. Puis, voilà, parce que j'avais parlé évidemment de ce NRI, de No Resident Indian. Et évidemment, il y a le personnage. Alors, ça, il était dans Orgueil et Préjugés, aussi le rôle... Je dirais pas comique, mais évidemment le loser. Mmh. Et là, il est joué par le personnage de Colly, donc le ridicule. Et c'est un Indien qui a réussi aux States et qui veut revenir pour épouser une dame. Et l'autre, c'est évidemment le gros comique, parce que souvent dans les histoires aussi indiennes, il y a beaucoup de ce personnage comique. Tu sais, pour un peu.
Oui, apaisé.
Apaisé, voilà, c'est ça.
Tu n'as point parlé de Gandhi ?
Si, justement, j'y arrivais. Parce que, évidemment.
Comment ne pas en parler,
donc. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, l'Inde a aussi. S'est exportée en dehors, il y a beaucoup aussi de réalisateurs qui sont venus parler de l'Inde. Mm. Évidemment, le plus connu, c'est Gandhi de Richard Attenborough en 1982. Ou Ben Kingsley, qui sera le futur méchant de Iron Man, le mandarin, prend les traits du Mahatma Gandhi. Donc évidemment, de ses premières actions en Afrique du Sud, hein, ses histoires pacifiques de prendre les bus, ce que Martin Luther King fera plus tard aux États-Unis. Et évidemment, jusqu'à sa lutte en non-violente qui permettra l'indépendance de l'Inde. Le Mahabharata de Peter Brook en 91. Donc, comme je l'ai dit, qui a été écrit à la même époque que la Bible, 18 volumes, plus de 90 000 couplets, 12 000 pages, tout en sanskrit. Donc, évidemment, c'est divisé en trois parties, la partie de Dédé, l'exil dans la forêt et la guerre. Donc, c'est un grand poème qui raconte la violente querelle qui oppose des cousins, les Pandavas et les Kauravas, pour le pouvoir sur le monde. C'est toute une histoire mythologique. Peter Brook, évidemment, est connu plus dans le milieu du théâtre. Je pense, et c'est vrai que c'est plus un truc très théâtralisé. Hein. Je ne sais pas si les Indiens ont fait un véritable film sur le Mahabharata, je n'ai pas trouvé. Mais je pense qu'ils doivent l'avoir fait. Évidemment, nous, plus proche de nous, ce qui est le plus connu, c'est évidemment Slumdog Millionnaire.
Oui.
De Danny Boyle en 2008.
D'accord.
Qui était tiré d'un livre qui s'appelait Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire, de Vikas Swarup. Voilà, évidemment, qui a reçu 8 Oscars, 4 Golden Globes. Donc, l'histoire de Jamal Malik, 18 ans, qui est issu des taudis de Mumbai. Donc, Mumbai, Bollywood. Et d'ailleurs, ils avaient pris des stars de Bollywood, hein, pour faire les acteurs. Donc, encore plus de retentissement en Inde. Et sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies. Il ne lui reste plus qu'une question, qui est une question sur les trois mousquetaires d'ailleurs. Hein. Mais la police l'arrête pour tricherie. Et là, évidemment, il est sommé de s'expliquer comment il arrivait jusque là. Et là, il explique toute son histoire, évidemment, d'où il est issu, sa famille, évidemment, la fille dont il est amoureux. Puisqu'il a quand même participé à ce jeu pour, évidemment, retrouver la fille. Il y a aussi un autre film qui est très connu, c'est Lagan, en 2001. De Ashutosh Gowarikar. En fait, c'est à travers un match de cricket du cri qui est très important en Inde. Oui, oui, puisque je vous rappelle quand même que c'est un sport national en Inde, puisque l'Inde a été vainqueur de la Coupe du Monde de cricket en Angleterre en 1983, finaliste en 2008 en Afrique du Sud. Et c'est le dernier vainqueur, puisque la prochaine édition aura lieu en 2015 en Australie, qui elle est la grande tenante puisqu'elle a 4 victoires.
D'ailleurs c'est les pays du Commonwealth qui jouent avec ça.
Oui, tout à fait, oui. Puis il y avait aussi, c'est très bizarre, c'est toutes les, ce qu'on appelle les Indes occidentales, qui en fait sont une réunion de petites îles. Donc c'est à travers un match de cricket, ça décrit la lutte des pauvres villageois contre les impôts des colons britanniques. C'est-à-dire qu'ils vont décider à travers un match, soit ils ne payent pas le fameux lagan, donc qui est un impôt sur les céréales, soit ils payent 3 fois la mise. Et c'était Amar Khan qui était acteur et producteur. Donc encore un Khan. Donc voilà, et ça se passe en 1893. Voilà, c'est quelques films. Je dirais pas que moi j'ai fait un ensemble, parce que je voulais évidemment parler des grandes stars comme Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, qui sont quand même les deux grandes stars. Alors évidemment, maintenant, il y a toute une génération montante. Depuis 2000, forcément, on commence à faire de plus en plus de films et de plus en plus international, notamment, comme j'ai dit, en Afrique, au Moyen-Orient, puisqu'il y a des épisodes de chaste, et donc ça permet de passer la censure musulmane, ce qui n'est pas le cas des cinémas occidentaux. Ça aussi. Et puis, évidemment, il y a toute une diaspora indienne dans les pays anglophones, notamment au Canada et en Angleterre. Donc ça aussi a été fait, et je pense que des cinémas, des réalisateurs comme Danny Boyle aussi ont permis, effectivement, puisqu'il faut savoir que évidemment le tournage en Inde est quand même moins cher qu'à Hollywood, donc là aussi je pense qu'il va y avoir dans quelques années. Et puis je me rappelle quand même quand ça avait commencé toute cette collection de films indiens, il y avait aussi toute la musique qui était vraiment issue et qu'on avait fait dans pas mal de dance floor. Donc voilà, donc moi je... Enfin, tu voulais rajouter peut-être quelque chose avant que nous sautions au pestel.
Oui, une petite conclusion, donc c'est quand même des films à voir, mais bon, il y en a qui n'aiment pas trop, parce que bon, comme tu disais, c'est un truc avec beaucoup de chansons, mais il y a quand même beaucoup de couleurs, la musique est belle souvent, et c'est une autre culture.
C'est-à-dire que c'est une autre culture, et moi je dirais que c'est surtout un cinéma, entre guillemets, bon enfant, je dirais pas naïf, parce que ça touche quand même des thèmes assez durs.
Il y a des choses violentes.
Il y a des choses violentes, mais on a l'impression que c'est un peu ouaté. C'est-à-dire que, tu vois, on veut bien parler de la violence, mais on la montre pas. On veut bien parler d'amour, mais on montre pas du sexe. Bon, tu vois, c'est très bizarre.
Non, mais t'es pour trop nous... habitué à
non, mais
ça
voilà.
Aussi.
Oui, non, mais voilà, pour nous autres occidentaux, évidemment, qui sommes habitués, parce qu'il faut qu'il y ait de la mini-jupe, il faut qu'il y ait de la poitrine, des scènes d'action, il faut qu'il y ait des...
C'est du West Side Story sans...
Voilà, c'est ça. Après, avec le côté coloré...
Platonique.
Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, puisque j'ai parlé du théâtre Parsi, et il y a tout ce qui est musique aussi, et la gestuelle, puisque les danses hindoues sont très codifiées, et que chaque geste signifie quelque chose. Donc ça aussi, il faut le savoir.
C'est ce qui oblige les acteurs à être très complets aussi.
Mais voilà, c'est ça, tout à fait.
De la danse, du chant.
Oui, mais voilà, c'est ça. Puisque là, j'avais un acteur, monsieur Bachachan, qui quand même, à près de 70 ans, dansait toujours, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un truc... Alors, c'est vrai que pour nous autres, les trucs, les comédies musicaux, soit on part du
musical.
Concept... Musical, pardon. C'est-à-dire, c'est un concept, on va voir une comédie musicale, donc ça, on est prêt, on le sait. Oui. Mais effectivement, dans un film quelconque, voir tout d'un coup des gens qui chantent, qui dansent, je crois que le cinéma russe aussi avait beaucoup de chants, là aussi. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment à voir, c'est du masala, c'est épicé, et je pense qu'effectivement...
C'est du bon curry.
C'est du bon curry, comme dirait Marie, mais disons que après c'est vrai qu'il faut, savoir s'ouvrir à ce cinéma-là qui dure long et qui a évidemment codifié et tout.
Alors où peut-on s'en procurer, monsieur Gouin ? Peut-on voir ça en France ?
Oui, tout à fait, il me semble, un festival... spécial indie, alors par contre je ne sais pas où.
Mais ce qu'il faut savoir, là je te coupe parce que j'y pense, donc Cannes 2013 accueillera deux, si vous voulez voir justement, aller à Cannes, donc vous tomberez sur de nombreuses stars indiennes, puisqu'il y a les 100 ans cette année qui sont représentées.
Oui, et puis je pourrais, mais on cite, puisque justement tu me fais parler de ça, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pakistan, les films, donc comme je l'ai dit, ont été interdits, mais par contre sous la veste, on apporte beaucoup de DVD et il paraît que quand même oui, Bollywood voir, perd oui. quand même 60% de ses revenus à cause de ça quoi. Et c'est-à-dire que les Pakistanais se trouvent dans je dirais pas un dédale, mais se trouvent dans un cas particulier où effectivement le régime leur interdit les films de Bollywood et alors que eux ils rêvent de s'en nourrir puisque ça fait partie quelque part de leur histoire puisque oui. le Pakistan est assez récent quoi. Donc voilà, donc moi je pense que c'est vraiment des films à voir.
Je pense
mais
qu'il y a plus d'occasions d'aller t'en voir à Londres que sur Paris.
Ben oui, mais ça c'est normal puisque la diaspora indienne est très oui. importante, que ce soit indienne ou pakistanaise aussi. Oui. Maintenant nous nous tournons vers le
rocher favori.
Voilà, notre cher Pistol, avec effectivement
des documentaires, des films.
Voilà, c'est ça. Il y a deux films.
No,
voilà, de Pablo Larraín.
Avec.
Ça va être plus simple.
Gwen.
Non, Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro et Antonina Zegger.
Donc ça a été présenté en Spotlight au Festival Sundance 2013.
Mm-hmm.
Ils ont eu un Art Cinema Award à la 44e quinzaine des donc, réalisateurs Cannes 2012.
Oui, et puis ils ont eu l'Oscar Chili. Du meilleur film étranger aussi.
Mmh, réalisateur, oui, c'est ça. Donc Chili, 1988, c'est ça.
Oui.
Lorsque le dictateur
Pinochet,
Auguste, hein,
oui, bah oui,
face à la pression internationale, donc consent à organiser un référendum présidence. Oui. Donc les dirigeants de l'opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, hein, René
Zinvinger.
Non, Saavedra.
Saavedra, oui.
Oui, c'est ça.
Ça donc, fait très indie, hein, comme
oui,
nom.
Mais... De concevoir donc leur campagne mm-hmm. avec peu de moyens mais des méthodes innovantes. Donc le jeune publicitaire et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l'oppression malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet.
Oui, ça fait. En fait, ça fait partie d'un. Et là, je vais pouvoir me le poser mon mot d'un triptyque. Puisque Pablo avait déjà commencé avec Santiago 73 post-mortem, donc il raconte l'histoire de Mario qui bosse à la morgue, qui rédige des rapports d'autopsie et qui tombe amoureuse de sa voisine, et évidemment jusqu'au coup d'état contre Allende. Et ensuite il y a Tony Maneno, où on filme évidemment l'époque la plus dure de la dictature chilienne, et évidemment No qui représente la fin. Donc
d'accord.
La chute de Pinochet.
Donc c'est une passionnante leçon d'histoire, hein, un film enthousiasmant, souvent drôle, et qui donne la pêche et on en ressort avec un sourire aux lèvres.
Oui, tout à fait. Bah, il est encensé ce film.
C'est un documentaire ou un film ?
Non, c'est un film, c'est un film.
D'accord. Donc après nous allons voir Petit Oiseau.
Oui, Little Bird de Boudewijn Couleur. Et ce film représentera les Pays-Bas au prochain Oscar en 2013.
D'accord, donc c'est pour les 8-10 ans, hein, vous l'avez compris, mm-hmm. hein, c'est un film d'une grâce et d'une simplicité déconcertante.
Mmh.
Donc c'est Jojo, Dinan.
Jojo,
ouais, qui a 10 ans, donc est souvent livré à lui-même entre une mère absente et un père qui perd pied. Donc,
ah bah bien.
Oui, donc il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d'un chouka.
Chouka.
Oui, c'est un oiseau, hein, oui. Tombé du nid. Donc ce petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la force d'affronter la réalité. Donc c'est un beau film, hein, une fable naturaliste, hein, enrubannée de symboles. Little Bird révèle surtout un acteur, hein, donc le petit, Rick Lenz, donc petit mais immense. Donc ce film rappelle avec lucidité et bienveillance que l'on n'est jamais moins naïf qu'à 10 ans, même lorsqu'on parle à un oiseau pour oublier les longs silence d'un père.
Oui, tout à fait. Et puis, en fait, c'est issu de l'enfance de Boudewijn, puisque, évidemment, quand il était petit, il y avait un chouka qui était venu près de sa fenêtre. Il a adopté au fur et à mesure. Et évidemment, ce film n'est pas sans évoquer le fameux Caisse de Ken Loach.
Comment ? Caisse.
Ouais. KES oui. de Ken Loach, évidemment l'enfant et le faucon là.
Oui.
Là où l'histoire où ça se finit mal.
Et bah, décidément, on n'en sort pas des oiseaux, puisqu'après il y a l'envol.
Oui, tout à fait, de René Bo Hansen, un Suédois, si je me rappelle bien.
D'accord, donc c'est un récit initiatique d'une beauté brute à travers les paysages spectaculaires de Mongolie.
Très belles images.
Donc il s'appelle donc Barzabai, hein, c'est un jeune homme, a d'autres rêves que les jeunes nomades, hein, c'est ça.
Oui.
Oui, de son âge, il ne veut pas marcher sur les traces de son père ni devenir un grand chasseur à l'aigle royal.
Mmh.
Il n'aime pas ça d'ailleurs, je crois, les aigles.
Oui.
il ne pense qu'à quitter donc les vastes plaines de Mongolie et découvrir avec son grand frère l'effervescence de Oulan-Bator, hein, qui est
Oulan-Bator, c'est la capitale.
Oui, c'est bien Gwen. Et donc il va apprendre
la capitale mongole. Hein.
Oui, il va apprendre que l'héritage donc du passé, le respect de la nature, l'amitié et la loyauté rendent plus fort.
Oui, voilà, parce que son grand frère, lui, va partir en ville et lui va rester.
Secrètement, voilà. Je crois.
Voilà, c'est ça. Mais lui va apprendre, évidemment,
un voyage initiatique.
Ouais, voilà, c'est oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'avec l'aigle, il va essayer de retrouver son grand frère, quoi. Donc voilà, c'est ça, on passe en rappeler le fameux film de Urga de Nikita Mikhalkov aussi. Sur les plaines de Mongolie.
C'est quand même une fable destinée au jeune public.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
Donc on est quand même comblé par la vérité des personnages, la pureté des décors, mais moins par le récit. Que se passe-t-il à la médiathèque,
oui,
monsieur ?
Donc en fait, puisqu'on reste dans le côté oiseau. Non, dans le côté oiseau.
Hein.
Oiseau. Donc évidemment, il va y avoir une séance qui se nomme À vol d'oiseau, donc le dimanche 7 avril, à partir de 10h30.
Du matin ?
Oui, mais sinon j'aurais dit 22h. Il va y avoir plusieurs films. Donc le premier, c'est La Falaise aux Pèlerins.
C'est des courts-métrages ?
Oui, oui, tout à fait. D'accord. Puisque le premier dure 50 minutes de Jean-Philippe Macchioni et qui va parler des faucons pèlerins. Et il y a aussi Les Chouettes Rencontres, qui est un court-métrage de 30 minutes de Pierre Valder et qui va raconter dans le parc du Jura vaudois les secrets de la chouette, raconte les histoires de la chouette Chevêche et de la chouette Tengelmalm.
Donc c'est en Suisse. Vaudois, Vaud, je suis
désolé. Oui, tout à fait.
Voilà. En Suisse qui s'appelle Jura aussi.
Voilà, aussi tout à fait. Et qui sera suivi d'un échange avec Gilbert David, qui est un naturaliste et le président de la LPO, de la Loïc Protectrice des
Doyaux.
Des audios. Voilà, tout à fait. À midi, il y a un repas tiré du sac avec des boissons offertes.
Ouais.
Est-ce qu'on pourra demander du poulet ? Ça, à 14h15, on redémarre. Il y a Les 10 000 choses, qui est donc un court-métrage de 45 minutes de Benoît Delbove, qui est une balade C'est une balade dans les parcs de Beaumont, sur les hauts de Montreuil.
C'est aux alentours de la région parisienne.
Voilà, c'est ça, oui. C'est dont les habitants sont responsables, quoi. Donc il y a toute une histoire là-dessus. À 16h30, il y a L'Envol, le film de René Bo Hansen. Donc voilà, qui est suivi
à la médiathèque, ça ?
Oui, aussi.
Ah d'accord.
Et qui sera suivi d'un échange avec Gilbert David, qui est un naturaliste. Et le mardi 9 avril à 18h, il y aura Les Géants du Caire, qui est un court-métrage de 26 minutes, de Cyril Barbacon, oui.
C'est la famille à Barbibule.
Oui, sans doute. Suivi d'une rencontre avec le président et le directeur de l'association Vautour en Baronnie, Roger Jeannin et Christian Tessier.
Ah, excuse-moi, mais la journée d'avant, c'était où ? Où et quand ? À la médiathèque aussi ?
Ah, c'est à la médiathèque, oui, tout à fait. Ouais.
Non, mais les premiers films que tu annonçais, c'était quelle date ?
C'est le 7 avril, j'ai dit. D'accord. Le dimanche 7 avril. Et là, ce sera le mardi 9. Et donc, évidemment, Les Géants du Caire racontent la vie des vautours fauves.
Qui ont une Diwa, les
voilà, c'est
fauves.
Ça. Mmh. Et qui ont une envergure de 2,70 m et qui a été tournée dans la Drôme provençale et autour du fameux rocher du Caire. Ce vautour sédentaire est surnommé les bueurs de la nature.
Les bueurs.
Les bueurs. Donc voilà. Donc évidemment, donc à part le film américano-chilien-mexicain, ça va quand même voler dans les plumes. Il va y avoir du prise de bec.
C'est pas vrai, c'est des films pour les petits enfants.
Alors, Igo, what the semaine prochaine, qu'est-ce que tu prépares ? Film de quoi tu parles ?
Eh ben, au vu des dernières sorties, hein, vu qu'on a vu 20 ans d'écart. Hein.
Vu qu'on a vu ?
20 ans d'écart.
Oui.
Qui n'est pas un truc sur la danse. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis du film avec, comment elle s'appelle
Happiness Therapy aussi. Hein. Donc, toutes ces sorties-là et 40 ans, je ne sais plus comment.
Oui, 40 ans, ouais. Oui.
Et donc, nous allons nous attaquer aux comédies romantiques.
D'accord, ok, bah, il n'y a pas de soucis. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices.
Vu que c'est le printemps.
C'est con, j'aurais dû dire namasté au début. Là, je ne sais pas dire fin, au revoir en hindi. C'est con. Donc, voilà, je dirais, bah, ma foi.
Goodbye.
Hein, goodbye India et welcome the comédie romantique.
Voilà.
Donc, chers auditeurs, chères auditrices,
à bientôt.
N'oubliez pas d'aller au cinéma et à bientôt.
de regarder des DVD. Et ou de la VOD.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Tout ce qu'à base de D.
Voilà. Tout à fait. Allez, ciao, ciao.
Au revoir. Snap out of it. You make me want to be a better man. I'm funny how I'm funny. I'm going to them. You won't have a problem. I'm the man of hell. I won't take this anymore. Are you going to bark all day? This is Sparta! The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. You talking to me? I love the smell of napalm in the morning. Life is like a box of chocolates.